quelques années, est en mouvement.
Les personnes qui arrivent d'Afrique, les personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Les élections municipales, c'est dans quelques mois. Partout en France, des candidats se déclarent. À Bourg-en-Bresse, déjà quelques têtes de liste. Le maire actuel, Jean-François Debat, laisse durer le suspense. Il n'a toujours pas déclaré sa candidature. À la tête de la ville depuis deux mandats, le représentant socialiste a lancé de nombreux projets. Une de ses priorités, la rénovation urbaine de certains quartiers. C'est l'objet de notre reportage en partenariat avec l'hebdomadaire Voix de l'Ain. Ce mois-ci, nous sommes allés dans le quartier des Vennes. Dominique Vidal est journaliste et historien. Il était à Bourg-en-Bresse pour une conférence sur le nationalisme et le populisme en Europe. À la veille des élections municipales, il donne des clés pour comprendre les postures des représentants politiques.
Radio B.
Tous les mois, Radio B, son partenaire de la presse écrite, Voix de l'Ain, se penche sur un quartier de la ville. L'objectif, aller à la rencontre des habitants et recueillir leurs témoignages à l'approche des élections municipales. Le quartier des Vennes est en pleine mutation, la rénovation urbaine est en cours. Zahira Zermani habite le quartier depuis novembre 1978, Muriel Crozier depuis 2003. Deux habitantes qui nous présentent leur quartier hier et aujourd'hui. Elles ont toutes les deux une image nostalgique des Vennes, quartier à la fois décrié il y a quelques années et pourtant très chaleureux et dynamique pour ses habitants.
Il a beaucoup changé, le quartier des Vennes. Il était avant mieux que maintenant, oui. Qu'est-ce qui était mieux? Avant, lorsque moi je suis venue ici, il y avait le centre social qui nous a bien aidés, le centre social. Les enfants qui font les activités. Il y avait où il y a les jeux, il y avait où dans les squares, il y avait des jeux. Maintenant, il n'y a plus de jeux. Avant, on était plusieurs nationalités et tout, mais ce n'est pas comme maintenant.
Alors moi, je ne connaissais pas du tout ce quartier. J'avais un peu de réticence à venir dans ce quartier-là, parce qu'on en a parlé un peu en méchanceté, enfin en disant un quartier chaud, un quartier... Après, il y a eu des changements. J'ai vécu, j'ai côtoyé beaucoup le centre social, donc on a fait des projets quartiers, on a fait des visites de quartier, on a demandé aux jeunes qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il fallait changer. Donc, il y a eu une amélioration de l'agoire-espace, juste devant les maisons. Donc, ça a beaucoup aidé aux jeunes de se défouler dans le quartier. Ils ont imposé à mettre des parcs pour les enfants, sécurisés. Donc, ça a été amélioré. Donc, on a eu les bus aussi, urbains, qui passaient plus une période et qui sont repassés après. Donc, ça nous a bien aidés. Et on a vu une autre image des Vennes. Moi, j'ai vécu un bon quartier, amical, chaleureux. Et j'ai pas retrouvé ça dans d'autres quartiers.
Un des gros changements du quartier, c'est la rénovation urbaine. Muriel Crozier habitait place Jean-Jacques Rousseau. Son bâtiment a été détruit sous ses yeux. Elle a été relogée dans un pavillon à 200 mètres de son ancien logement.
J'avais été, quand il y avait le maire, là, la première... Pierre qui va tomber, quoi, mais ça fait drôle. Et quand on voit les chambres, tout ça, quand c'est vide, vous avez l'impression, on était là, ça n'existe plus après. Après, on m'avait dit, faut te reconstruire, ça va aller. C'est pas facile. Quand j'ai déménagé, le souci, c'est que j'ai pas retrouvé les voisins que j'avais avant. La convivialité, on a déménagé dans un truc normal qu'on souhaitait avant. Mais le souci, c'est les voisins. Il n'y a pas d'échange, c'est pas chaleureux et on ne retrouve pas ça comme avant. Ça manque beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont isolés, qui aimeraient bien parler, tout ça. Mais on n'ose plus maintenant comme avant. On n'ose plus affronter les gens parce que ce n'est pas ce qu'ils ont peur. C'est qu'il y a moins de contacts.
La rénovation urbaine laisse des marques. Elle questionne aussi les locataires des autres immeubles de la place Jean-Jacques Rousseau. Zahira Zermani sait que son bâtiment va être détruit, mais elle a reçu des informations contradictoires de la part de Bourque Habitat.
Lorsqu'ils ont fait la première réunion, ils nous ont dit « on va vous donner le logement ». Et dès qu'il y aura des logements neufs, construits, vous allez retourner. Mais maintenant, à la deuxième réunion, ils nous ont dit non. Ils ne donnent pas les nouvelles logements. On ne sait pas, pour le moment, on ne sait rien du tout. Ils sont en train de proposer pour les gens. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Et on verra.
La deuxième réunion n'a pas été confirmée, pareil que ce qu'on nous avait dit en premier. Ça veut dire qu'on va avoir une proposition de logement, on peut en avoir trois. Si on refuse les trois, ben évidemment, il faut qu'on essaye de voir ce qui a été proposé. Mais on ne retourne pas dans l'endroit qu'on avait avant.
Ce n'est pas nous qu'on a voulu déménager. C'est eux qui nous font déménager.
Globalement, les habitants sont plutôt favorables à cette rénovation et attachés à leur quartier.
On veut qu'ils nous donnent des logements neufs parce qu'on a souffert. On a souffert de ces logements, beaucoup d'humidité. Beaucoup de l'humidité, beaucoup, on chauffe ou on ne chauffe pas, c'est la même. Les factures énormes des gaz, donc on veut un logement neuf. Ils vont mettre les jeux, ils ont promis qu'ils vont mettre les jeux pour les enfants, c'est ça qui manque, c'est tous les jeux pour les enfants, oui.
Bon, c'est pareil, enfin maintenant c'est vrai que c'était ancien, c'est le logement, mais bon, on vivait bien, il fallait être ça que ça soit rénové avant, mais ça, c'était pas le cas, mais bon, après... Le quartier en elle-même, il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, il y a beaucoup de modernisme. Hein. Ils ont fait la poste, ils ont fait la pharmacie. Il y a la pharmacie, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Donc, moi, je dis, ça se développe bien. Quoi.
La rénovation du quartier des Vennes, c'est encore quelques années de travaux, des démolitions d'immeubles et de pavillons à venir, des habitants relogés, de nouveaux arrivants, un quartier qui risque encore de bouger. Un dossier réalisé en partenariat avec La Voix de l'Ain, l'article de Corinne Garrett à retrouver dans l'édition du 1er novembre et en ligne sur le site de La Voix de l'Ain dans la rubrique Bourque-en-Bresse.
Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Oh, c'est chacun. La vérité nue. La vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague âme, Oust Chouka. Un vague âme, Oust Chouka.
manque.
Bertrand Belin et le titre Nuit Bleue. Il sera en concert au Théâtre de Bourg-en-Bresse ce mardi et ce mercredi et invité d'une émission spéciale mercredi soir à 18h à la MJC de Bourg-en-Bresse. Bonjour Camille.
Bonjour Elodie, bonjour à toutes et à tous.
Camille, vous avez rencontré Dominique Vidal, il est journaliste et historien.
On l'a abordé en première partie, les municipales approchent et avec elles, différentes manières de faire de la politique, différentes postures des candidats.
Une notion que l'on risque d'entendre pendant ces campagnes, c'est celle de populisme, Camille.
Dominique Vidal revient sur cette notion et dresse un portrait de l'Europe aujourd'hui. Dominique Vidal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et journaliste et vous dirigez avec Bertrand Badi l'annuel collectif L'État du Monde aux éditions La Découverte. En septembre 2018, le thème de l'ouvrage était le retour des populismes. C'est quoi le ou les populismes ?
Alors c'est sans doute un mot un peu compliqué pour le grand public parce qu'il est très confus. Parce que le « isme » de la fin fait penser qu'on est devant une doctrine politique ou religieuse, genre socialisme, communisme, judaïsme, christianisme, etc. Or, ce n'est pas du tout ça. Le populisme n'est pas une doctrine. Le populisme, c'est essentiellement une manière de faire de la politique. C'est un type de discours, un type de posture. Et il est très divers, en fait, selon la période, le fait que c'est un populisme occidental ou du Sud, du tiers-monde, comme on disait autrefois, selon qu'il s'agit... Oui, on peut dire, par exemple, que le populisme, c'est les narodniki du temps des mouvements dans la Russie tsariste. On peut dire que c'est ce qu'il va y avoir autour de Perón en Argentine. Autour de Mussolini et de Hitler en Europe dans les années 30. Bref, c'est des situations très différentes. Le seul point commun, c'est le type de posture, le type de discours, pas une doctrine.
Et donc à quoi on voit qu'une personnalité politique ou un parti est populiste, concrètement ?
Il y a pas mal de points communs, encore une fois, dans la posture. Par exemple, le culte du chef. Ça, c'est un élément typique des mouvements populistes, au point que parfois le mouvement porte le nom du chef. Tout à l'heure, je vous parlais de Perón. Ben, le péronisme, c'est un populisme qui hérite du nom du chef. Vous avez un autre aspect important, je crois, qui est la dénonciation des élites censées exploiter le peuple. Les populistes, les nationalistes, l'extrême droite, jouent sur les peurs, en général. Alors, dans cette peur, il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, il y a une véritable peur devant la modernité. Je crois que ça fait au moins aussi peur que les Arabes et les réfugiés, les migrants et les gens qui arrivent en Méditerranée et qui meurent. La question des migrants est devenu un instrument majeur, absolument majeur, de ces forces. À la fois, l'idée de la concurrence, c'est-à-dire ils viennent nous voler notre pain, quoi, voilà, nous prendre notre pain. Même Jean-Luc Mélenchon, à propos des travailleurs détachés, a dit « ils viennent voler le pain de nos ouvriers », quand même. Hein. Et puis, sous l'autre angle, c'est le fameux grand remplacement qui a été inventé par une idéologue israélienne qui s'appelle Bat Yehor, qui nous a expliqué que les musulmans, les arabes, les musulmans, c'est un peu confus, allaient devenir majoritaires dans nos pays. Il suffit d'avoir un tout petit peu de jugeote et de regarder les chiffres pour voir que c'est une escroquerie intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a 5% de musulmans en Europe, avant qu'il y en ait 50%, il faudra qu'ils fassent beaucoup, beaucoup d'enfants quand même. Vous avez aussi, et c'est important, dans le discours populiste, le refus, voire même le mépris de la démocratie. On ne croit pas que les peuples puissent élire des représentants. Il faut avoir une démocratie directe, c'est-à-dire en fait la direction d'un homme ou d'un groupe d'hommes directement à partir du sommet quand ils ont pris le pouvoir. On pourrait aussi dire qu'il y a une réelle diversité de programmes économiques. Par exemple, quand vous prenez les partis populistes, je ne parle là que des partis populistes de droite, on pourrait prendre ceux de gauche aussi, vous vous apercevez que certains sont néolibéraux, favorables au système actuel, d'autres, au contraire, ont un type de discours qui est plutôt un type de discours de gauche, en fait. Il y a un cas typique qui est le SMER, qui est un parti populiste slovaque, et qui... à beaucoup d'égards, se rapproche des partis de gauche.
Dominique Vidal, vous dites des populismes de gauche, de droite, il n'y a pas que les extrêmes ou c'est quand même pour les extrêmes ?
Moi, vous savez, le mot extrême, j'ai du mal à l'utiliser parce qu'il est souvent utilisé pour dénoncer, pour discréditer tel ou tel. Quand on dit aujourd'hui... que la France insoumise est un mouvement extrémiste. Personnellement, j'ai aucune sympathie particulière pour la France insoumise, pour ce qui me concerne, mais je ne crois pas qu'on puisse dire raisonnablement qu'elle est un mouvement extrémiste. Par contre, le culte du chef, alors là, on le retrouve bien à la France insoumise. Vous voyez, donc, c'est vraiment des partis à géométrie variable qui ont une dimension vraiment occasionnelle, quoi, conjoncturelle. On ne peut pas dire qu'il y ait une histoire des mouvements populistes où on puisse trouver une cohérence, quelle qu'elle soit.
Vous parlez mouvement nationaliste, on en est où ?
Moi, je suis frappé qu'on a eu des élections européennes, qui ont marqué une formidable avancée de ces forces, nationalistes, d'extrême droite, populistes, et qu'apparemment, la plupart des observateurs, de vos collègues, de nos confrères, ne s'en sont pas rendus compte. Alors, est-ce que c'est par une forme de méconnaissance de ce qui se passe ? C'est possible. Est-ce que c'est parce que politiquement, les directions de rédaction n'ont pas voulu mettre l'accent ? Mais moi, je vous donne des chiffres. Ils sont simples à suivre. Il y avait... dans le Parlement élu en 2014, 155 députés nationalistes, souverainistes de droite, populistes, etc., d'extrême droite, il y en a aujourd'hui plus de 200. Ça fait plus de 200 sur 751 députés. Donc c'est pas du tout négligeable. Ça veut dire que la stratégie de ces forces qui a consisté à non plus à vouloir quitter l'Europe, faire le Brexit, le Frexit, l'Itaxit et que sais-je encore, mais à s'emparer de l'Europe, c'est un choix qu'ils ont fait. Hein. Alors, c'est aussi un choix parce que le Brexit est tellement mal parti que ça ne donne pas très envie de faire une campagne en faveur de ce type de rupture. Mais en tout cas, la stratégie de conquête de l'Europe, bon, elle n'est pas achevée, loin de là, parce qu'on a encore une grande majorité de forces qui ne sont pas... intégré dans ce groupe-là, mais quand même, c'est un sacré pas en avant pour ces forces. Et donc, il faut bien mesurer, par exemple, que pour la première fois, depuis que le Parlement existe, il n'y a plus de majorité polarisée autour du Parti populaire européen, de la droite traditionnelle, et des sociaux-démocrates. Avant, ces deux groupes avaient la majorité, pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ce qui n'est pas forcément... bonne chose, hein. Mais maintenant, toute gestion du Parlement doit passer par des alliances ponctuelles, y compris avec ces forces d'extrême droite qui vont donc faire payer régulièrement leur ralliement à telle ou telle loi, à telle ou telle décision. Donc on est vraiment dans une période de poussée considérable de ces forces. Il faut y être attentif. On le voit en France. Imaginons ce qui peut se passer demain si le président de la République, n'ayant pas compris la leçon politique qu'a donnée depuis très longtemps Jean-Marie Le Pen, et qui est une leçon politique majeure, à savoir les électeurs préfèrent l'original à la copie, donc préfèrent le Rassemblement national à la droite traditionnelle, je constate que le président de la République, comme le parti LR d'ailleurs, court derrière aujourd'hui le Rassemblement national, reprennent à leur compte en particulier l'islamophobie raciste la plus vulgaire. On a entendu un ministre, quand même, le ministre Blanquer, appeler à ne pas respecter la loi. Vous savez, ça porte un nom, ça, c'est forfaiture. Normalement, un ministre qui se livre à une forfaiture en appelant à ne pas respecter la loi, il gicle. J'ai pas entendu dire que Blanquer ait démissionné ou ait été démissionné de ses fonctions. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour Blanquer, c'est pas parce que cette stratégie du pouvoir et de la droite dite républicaine, mais je sais pas si elle l'est encore vraiment, elle est suicidaire. C'est-à-dire, elle peut nous amener à une situation où le Rassemblement national prend le pouvoir.
Pour les auditeurs, un petit rappel, les nationalistes à l'assaut de l'Europe, c'est ça que vous décriviez. Vous pouvez rappeler les définitions de nationaliste, souverainiste et la différence avec populiste?
Alors, nationaliste, c'est relativement simple. C'est une force qui considère que ce qui importe, au-delà de tout, c'est la nation. Extrême droite, c'est un mot bien plus précis parce qu'il a une localisation, une géographie politique claire. Il est à l'extrême droite. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des forces d'extrême droite n'aiment pas se dire d'extrême droite. Vous savez par exemple que Marine Le Pen, pendant quelques années, a fait des procès à ceux qui disaient que le Front National était d'extrême droite. Elle a perdu tous ses procès, elle a renoncé à cette bataille linguistique. Mais il est vrai que le mot extrême droite rappelle fascisme, nazisme, collaboration. Donc il est un peu dur à porter. Et je constate que Marine Le Pen, pour prendre son exemple, elle utilise maintenant uniquement le mot nationaliste. Populiste, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une forme de mouvement qui a un discours, qui a une manière de fonctionner très particulière. Mais il y a des populistes de gauche. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je constate quand même que les forces populistes de gauche ont connu et connaissent dans la dernière période beaucoup de revers. Il ne faut pas avoir, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, une vision linéaire. Il y a aussi des forces populistes de droite qui sont en difficulté. Voilà, il y a une poussée générale, mais il y a aussi des difficultés et une partie de ces forces, qu'elles soient populistes de gauche ou de droite, qui enregistrent des reculs.
Les gilets jaunes et le populisme, on les a souvent associés. Qu'en pensez-vous?
Moi, je ne pense pas que les gilets jaunes soient un mouvement populiste. Je pense que les gilets jaunes, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des victimes à des degrés divers de la mondialisation, de la politique néolibérale, qui ne trouvent pas dans le paysage politique français d'alternative. Bah, écoutez, le PC a fini à moins de 3%, le Parti Socialiste à 6%, Hamon, je ne sais plus. Et de toute façon, quand bien même ils auraient eu de plus gros chiffres, je ne connais pas leur programme. Je n'ai aucune idée de ce que la gauche française, traditionnelle, disons, propose comme alternative à la politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui fait que des mouvements comme les Gilets jaunes ont une sensibilité à un certain nombre de discours qui viennent de l'extrême droite. C'est pas qu'ils sont d'extrême droite, c'est que l'absence d'alternative amène ces gens à se chercher, et ils se trouvent pas. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses très regrettables. Il y a eu des bavures antisémites. Moi, je les ai vues. Donc, j'ai vu aussi le rôle de l'extrême droite dans un certain nombre de manifestations où ils essayaient de se glisser, y compris des militants connus, hein, des gros bras, etc. Bon, c'est normal, si vous voulez, quand il n'y a pas d'alternative de gauche, il faut bien que les gens aillent ailleurs. Donc une partie du mouvement des Gilets jaunes a été happée par l'influence du Front National. C'est aussi ce qui a amené le mouvement à s'isoler, comme la violence inutile a amené le mouvement à s'isoler. Donc on est devant cette situation-là. Hein. Ce n'est pas un problème français, c'est un problème global.
Dominique Vidal, merci.
Merci à vous.
Et je rappelle que vous êtes historien et journaliste et que vous avez fait une conférence à Bourg-en-Bresse sur le nationalisme et les populismes en Europe aujourd'hui.
Dominique Vidal, journaliste et historien, il co-dirige l'annuel collectif L'État du Monde. Le dernier ouvrage en date a pour titre Le retour des populismes.
Merci Camille.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Un homme aux multiples talents à Bourg-en-Bresse cette semaine, une voix grave, un auteur, compositeur, interprète, mais aussi un écrivain.
Bertrand Belin est au théâtre de Bourg-en-Bresse le 5 et 6 novembre, l'occasion de découvrir son nouvel album Persona, c'est à 20h.
Et Radio B vous propose de partir à la rencontre de Bertrand Belin dans une émission spéciale.
Rendez-vous le mercredi 6 novembre à 18h à la MJC de Bourg-en-Bresse, une émission dans laquelle se croiseront l'artiste musicien et une circassienne. L'occasion aussi d'aborder l'univers musical de Bertrand Belin et son écriture. Si vous voulez assister à l'émission, il est important de réserver auprès de la MJC de Bourg.
Camille, on connaît la Bourgogne surtout pour ses vins ou encore ses abbayes, mais on ne connaît pas forcément son histoire.
Xavier Lepersan nous éclaire avec une conférence ce jeudi 7 novembre. La Bourgogne, un enjeu géopolitique majeur entre les rois de France et les Habsbourg au 15e et 17e siècle. Xavier Lepersan est maître de conférences en histoire moderne à la Sorbonne, à Sciences Po et au Middlebury College. La conférence est au lycée Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse ce jeudi à 18h. C'est dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par le monastère royal de Brou.
Et un anniversaire, les 20 ans des rencontres des amateurs de théâtre.
Ça commence ce jeudi jusqu'à dimanche au théâtre de Bourg et dans différents lieux de la ville.
Un programme varié. Camille, vous avez repéré quelques spectacles ?
Le fils de Christian Rullier, mis en scène par Éric Girard, une comédie satirique et délirante interprétée par la compagnie Le Puzzle. Le spectacle ouvre et ferme les rencontres. On peut y assister jeudi et dimanche à 20h à la salle Jean Villard du Théâtre de Bourg. Cet anniversaire sera aussi l'occasion de rencontrer une auteure, Nathalie Raffal. Son œuvre « Il y a une fille dans mon arbre » sera lue par 3 comédiennes. C'est samedi à 19h au Forum du Théâtre.
Le zéro déchet a le vent en poupe et les ouvrages sur le sujet fleurissent.
Thibaut Turchet est l'auteur de Territoire Zéro Waste, un guide pratique adressé aux collectivités et à ses habitants. Ce vendredi 8 à 18h, il animera une conférence sur le zéro déchet dans nos territoires ou comment agir à notre échelle. Ça se passe à la librairie Montbarbon à Bourg-en-Bresse. Et il sera aussi présent le samedi de 15h30 à 18h pour des dédicaces.
Et Camille, vous avez rencontré la papesse du zéro déchet.
Elle s'appelle Bea Johnson et c'est une des pionnières dans le domaine. Elle sera en conférence le 18 novembre à Châtillon en Michaille. Une interview à écouter dans la matinale la semaine du 11 novembre.
Merci Camille, merci à Thomas pour la réalisation, merci à vous pour votre écoute. Pas de magazine lundi prochain, mais vous retrouverez notre collègue Inès Lombartet le lundi 18 novembre. En attendant, vous pouvez toujours nous réécouter sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. À bientôt.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Les personnes qui arrivent d'Afrique, les personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.